Bonsoir, bienvenue ce soir à la première conférence publique de l'année 2015-2016. Le thème qui a été choisi cette année, c'est pouvoir et autorité au pluriel en islam. Pour le contexte à jouer, évidemment, parce qu'on est submergé par des discours sur l'islam, sur la confusion qu'il y aurait ou qu'il y a en islam entre pouvoir et religion, sur Dîn et Daoula, l'usage fréquent, parfois abusif ou pas, on verra, du terme de charia, de personnes qui revendiquent l'application de la charia, ça fait déjà quelques années, mais avec les processus révolutionnaires dans un certain nombre de pays arabes, les débats qu'il y a eu autour des constitutions sur la place à accorder aux droits musulmans, hein, des droits musulmans locaux, et rend cette question aussi importante. Le fait qu'en islam, il n'y a pas d'autorité de référence institutionnalisée comme l'Église dans le monde chrétien, même s'il y a des églises, et si tout le monde, tout le christianisme, toute la chrétienté ne se rattache pas à une église, il y a un pôle. Voir comment cela fonctionne en islam. Pour ça qu'on s'est intéressé d'une part à des notions comme la charia, la question du droit musulman, au pouvoir et aux différents termes qui le désignent, que ce soit émir, sultan, président, avec en particulier des systèmes que l'on voit apparaître ces dernières années de régime républicain ou de république avec des présidents héréditaires qui transmettent le pouvoir à leur fils, c'était le cas pour la Syrie, et le néologisme de Jumlukiya qui est apparu chez un certain nombre d'éditorialistes ou de penseurs de la question du pouvoir politique dans les pays arabes, c'est un mot valise qui est monarchie-présidence, enfin présido-monarchie, comme on veut. Mais on pourrait se demander si le système américain où un fils devient président à la suite de son père est si différent. Mais enfin bon, il y a en effet une différence, ne serait-ce que parce qu'il y a des élections. Donc voilà un certain nombre de questions qu'on va essayer d'aborder. Juste comme précision, il y a un titre qui est « Justice et tyrannie » le 2 février et qui portera plus précisément sur l'État islamique. Et donc sur la nouvelle structure, le nouveau califat qui est apparu en Irak et en Syrie ces dernières années. Voilà en gros ce qui a prévalu pour le choix du thème. Donc la première conférence cette année porte le titre « La charia entre droit et politique ». Et je suis particulièrement honoré d'accueillir aujourd'hui Jean-Philippe Bras et Nathalie Bernard-Maugiron, puisque tous les deux m'ont précédé à la direction de l'ISM. Jean-Philippe Bras qui a été directeur de l'ISM en 2006-2010 et Nathalie Bernard-Maugiron de 2010 à 2014. Alors, bon, Jean-Philippe Bras et Nathalie Bernard-Maugiron ont collaboré de longue date sur ces questions-là. Je commence juste par évoquer une de leurs publications chez Dalloz de 2015, toute récente, qui est « La charia ». Donc un petit livre, comme vous voyez, très synthétique, très pratique, pour savoir tout sur la charia, qui n'est pas cher du tout. Donc Jean-Philippe Bras est professeur de droit à l'université de Rouen. Il a exercé énormément de fonctions, je ne vais pas m'étendre dessus. Il a été en poste en Tunisie, au Maroc. Il a dirigé un certain nombre d'instituts à l'étranger. Aujourd'hui, il est président
du conseil scientifique
des instituts français à l'étranger, les IFRE, pour le Maghreb. Il a été directeur de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis aussi. Bref, il a deux casquettes, en fait. D'une part, il est spécialiste du droit public français et de la science administrative. Il a de nombreuses publications dans ce domaine. Et d'autre part, une spécialité sur le terrain maghrébin avec un certain nombre de publications et de travaux de recherche dans le domaine du droit et de la science politique et jusqu'à des travaux sur les transformations récentes de la normativité islamique, non seulement au Maghreb, mais dans le monde arabe, mais aussi en Europe. Et donc, je suis particulièrement honoré, je ne vous dis pas ce qu'ils étaient directeurs, mais ils co-organisent aussi ensemble un séminaire à l'ISM sur le droit contemporain des pays musulmans. Donc, je suis particulièrement content de les accueillir aujourd'hui. Jean-Philippe a publié de nombreux ouvrages. Les plus récents, donc, c'est avec Nathalie Bernard-Maugiron, La Charia, et sous sa direction, Faire l'histoire du droit colonial, 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, chez Cartala, une collection en partenariat avec l'ISM. Pour Nathalie Bernard-Maugiron aussi, qui est donc directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui était codirectrice de l'ISM jusqu'en 2014, spécialiste du droit, elle a reçu des prix pour ses recherches et a publié de nombreux articles sur État et religion dans la constitution des frères musulmans, sur les dynamiques constitutionnelles dans les différents pays arabes depuis les révolutions, la place de la Sharia dans l'Égypte post-Moubarak. Et comme d'ailleurs Jean-Philippe Bras, elle a participé à un ouvrage dirigé par Baudouin Dupré sur la charia aujourd'hui, usage de la référence au droit islamique, qui est paru en 2012 à La Découverte. Je leur laisse donc la parole, d'abord à Jean-Philippe Bras, si j'ai bien compris, et à Nathalie Bernard-Mogeron.
Merci beaucoup. Oui, bien sûr, je suis très content d'être là. Ce n'est pas une simple convenance parce que on est un peu en famille ici, Et pour cette conférence inaugurale, ces conférences que j'ai organisées, puis que Nathalie a organisées pendant de nombreuses années, qui continuent à avoir un public soutenu sur toutes les thématiques autour de l'islam et du monde musulman. C'est une mission effectivement centrale de l'ISM que de diffuser les savoirs sur le monde musulman. De l'ISM qui est une institution qui arrive quasiment à son quart de siècle d'existence et qui donc a été confortée dans le paysage scientifique dans le cadre de HESS. Alors, en famille, parce que donc Nathalie a organisé ses conférences après moi, que nous avons travaillé ensemble, comme Pascal l'a dit. Avec Alain, je retrouve des choses qui ont été faites par d'autres avant elle et aussi bien. Et même Jocelyne Gillet, là-haut, l'ancienne responsable administrative de l'ISM, qui a joué un rôle particulièrement important dans le développement de cette institution. Alors, je voudrais dire que oui, effectivement, on a fait un petit ouvrage dans la collection Un savoir de Dalloz, qui est une collection juridique, donc c'est un ouvrage à fondement juridique, sur la charia. Ce qui nous a poussé à cela, et ce qui est l'objet de cette conférence, c'est justement de réfléchir sur ce que l'on disait sur la charia de manière contemporaine. Et on a pu constater, me semble-t-il, que les usages politiques de la charia, qui sont faits aujourd'hui, tendent à introduire un certain nombre de biais sur les représentations de la charia comme droit. Et que, tout d'abord, ce que j'essaierai de démontrer dans la première partie, qui sera une partie historique sur la charia, tout d'abord que la relation entre charia et droit dans le monde musulman ne relève pas d'une évidence. Que charia n'est pas toujours égal à droit. Et ensuite, que le contenu de la charia comme droit n'est pas non plus une évidence, que ce droit, dit charaïque, est un droit fluctuant, évolutif, loin des certitudes des promoteurs contemporains de la charia, des opérateurs politiques, je dirais, d'aujourd'hui, de la charia. Alors, nous avons réparti le travail de la manière suivante. Donc, je vais vous faire une sorte de panorama historique, rapide, un survol de la charia avec tout l'arbitraire que cela suppose. Et puis, Nathalie nous parlera d'un point qui est particulièrement important et qui aujourd'hui explique que l'affaire soit dans l'agenda, comme je vais le dire tout à l'heure. Les printemps arabes ont été un levier très important de la question centrale sur la place de la charia dans l'État et le droit des sociétés du monde arabe. Et puis, en fonction du temps qui nous restera, j'examinerai un autre processus qui est le processus d'occidentalisation de la charia, c'est-à-dire le fait que la charia est aujourd'hui présente dans nos univers juridiques, politiques et sociaux. Voilà donc comment nous allons nous organiser. Et je commencerai donc par cette question, pourquoi s'intéresser à la charia ? Cette notion était effectivement à peu près inconnue des opinions publiques du monde occidental jusqu'à la fin du XXe siècle. Qui parlait de charia ? Qui savait ce qu'était de loin de près la charia ? À peu près personne, sauf quelques spécialistes. On est un ici devant moi, remarquable. Quelques spécialistes donc qui nourrissaient une communauté scientifique de leur savoir. Aujourd'hui, et la séance d'aujourd'hui en est une manifestation, la charia aujourd'hui intéresse tout le monde en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique. Et donc, pourquoi ça nous intéresse tous ? Parce que la notion est au cœur de l'agenda politique et juridique des sociétés occidentales. Alors pourquoi cette mise sur agenda, comme on dit en politique publique ? Eh bien, il y a un élément, je dirais, qui est tout d'abord éminemment interne aux sociétés occidentales. C'est, je dirais, à la fois la croissance de populations qui s'identifient à partir d'appartenances religieuses, donc de populations qui s'identifient ici comme musulmanes, et d'autre part, la demande croissante, les deux sont en partie liés, de normativité islamique de la part de ces populations. Demande croissante de normativité islamique, c'est-à-dire, d'une part, on veut connaître les normes, c'est-à-dire que les musulmans veulent savoir la manière dont ils doivent se comporter pour être des bons musulmans, et ensuite, ils demandent à ce que l'on leur offre des espaces pour pouvoir se comporter comme de bons musulmans. Ça, c'est un élément très important, évidemment, dans l'agenda. L'autre élément, le second élément qui est à la fois intérieur et extérieur, c'est que la charia est présentée par des acteurs que l'on peut appeler radicaux, hein, des islamistes radicaux qui utilisent des moyens de combat que l'on qualifie de terroristes, parfois, ou souvent. Ces acteurs donc utilisent la charia comme une forme d'arme de guerre contre le monde occidental, hein, c'est-à-dire nous allons détruire un monde, mettre un autre monde à la place, hein, reposant sur la charia. Hein. Alors c'est externe et interne parce que les acteurs sont externes et internes, hein, on le sait bien, et d'autre part parce que c'est aussi dirigé contre les régimes en place d'un certain nombre d'États du monde arabe et musulman, et c'est un point sur lequel Nathalie nous dira des choses. Enfin, troisième élément, et ça c'est le cœur de ce que va nous dire Nathalie, il y a ce débat qui est ouvert dans le cadre des printemps arabes sur la place de la charia dans l'État, le droit et les sociétés de la région, et avec cette idée que ce débat est en écho avec les débats que nous avons en Occident. Hein, il ne faut pas penser que ce sont des débats séparés, ce sont des débats qui aujourd'hui sont très interconnectés. Alors, ici, pour mettre simplement quelques images qui permettent de représenter cette intrusion de la charia dans l'espace public, nous avons ici, par exemple, une photo d'un membre d'Ansar al-Sharia en Tunisie. Ansar, ce sont les défenseurs ou les protecteurs de la charia qui donc vont brandir un drapeau, hein, le drapeau noir, donc avec la fameuse formule sur « il n'y a pas de Dieu sauf Dieu » et donc Mohammed est son prophète. Il y a donc ces images. Là, vous avez ici des barbus vénérables ou plus ou moins vénérables qui sont justement l'état-major d'Ansar al-Sharia en Tunisie. Donc c'est un mouvement dont on sait qu'il a été un mouvement légal, toléré et même encouragé au début de l'exercice du pouvoir par les frères musulmans en Tunisie, par le parti Ennahda, et qui depuis est devenu un mouvement classé dans les mouvements terroristes. Alors évidemment, donc il y a eu tous ces mouvements Ansar al-Sharia qui se sont développés sous l'égide d'Al-Qaïda, et puis maintenant le concurrent qui est l'État islamique, hein, qui lui est donc se développe avec une implantation territoriale et qui est dans des revendications de même nature, simplement avec des stratégies qui sont un peu différentes, puisque il y a des stratégies qui reposent sur la conquête de territoires. Là, vous avez donc les territoires conquis qui sont fluctuants, puisque vous savez qu'en fonction des opérations militaires, eh bien, ce territoire se rétracte ou se dilate. Et là, donc, vous avez ces fameux drapeaux noirs et ces fameuses voitures 4x4 qui marquent bien la mobilité de ces troupes, leur manière d'agir et de conquérir les terrains qui doivent devenir des terres de charia. Là, vous avez le sabre et le Coran qui symbolisent donc cette lutte. Là, vous avez Abu Omar el-Baghdadi, donc qui est le leader de ce mouvement. Vous aurez une conférence donc sur ce thème. C'est François Burga. Là, vous aurez un spécialiste des spécialistes sur la question. Juste une image, parce que évidemment, on ne peut pas se dispenser de ces questions, sur une des représentations aujourd'hui de la charia qui est particulièrement forte, c'est-à-dire cette idée qu'à la charia sont liées un certain nombre de peines pénales qui paraissent non conformes aux conceptions, aux standards des droits de l'homme aujourd'hui. Ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. Donc, avec, là c'est en Somalie, si je me souviens bien, une de ces peines qui consiste donc à fouetter les gens. La flagellation, on parle de lapidation. En principe, la lapidation, c'est des pierres, d'ailleurs. Mais, hein, c'est la flagellation. Donc ce sont ces représentations. Bien sûr, la question qu'on doit se poser c'est qu'est-ce que la charia, qu'est-ce que cette fameuse charia qui est aujourd'hui omniprésente dans le débat public. Elle est au moins trois choses différentes. La première, c'est qu'elle est une affaire de croyants, tout d'abord. Elle est une affaire de croyants et elle est donc quelque chose qui dicte la conduite du croyant, un éthos religieux, donc pour le croyant musulman, qui, en gros, lui donne une voie vers son salut et vers la vérité, hein, qui lui donne en même temps une morale. Étymologiquement, le mot charia est un mot qui signifie la voie, et vous savez que beaucoup de ces mots ont des connotations, des inscriptions qui sont en rapport avec ce qu'était le monde quotidien des Arabes, qui était le désert, et donc c'était la voie qui menait les troupeaux au point d'eau dans le désert. Donc là, il y a une métaphore qui peut être assez forte. Donc, charia veut dire, pour le musulman, hein, l'ensemble des normes qui vont lui permettre de se conduire conformément à la religion. La charia, c'est aussi un droit, c'est-à-dire un corpus de textes qui va conférer une validité à un ensemble d'actes juridiques. Telle loi est valide parce que conforme à la charia. Tel jugement est valide parce que conforme à la charia. Nous sommes dans un registre qui est un registre de la validité juridique, qui n'est pas celui de la vérité théologique. C'est autre chose. Et puis, troisième mode de définition de la charia, c'est celui qui consiste à dire, et aujourd'hui nous en sommes témoins, c'est moins qu'on puisse dire, que la charia est un projet politique, c'est-à-dire l'instauration et la mise en œuvre, ou la réinstauration, hein, pour les pays du monde musulman, et la mise en œuvre de ce droit et de cette morale par un État et des juridictions islamiques. Alors, j'en viens à ce qui est cette historique qui permet de comprendre pas mal de choses. Cette historique, eh bien, il faut penser que ce droit conçu dans des sociétés arabes du désert au 7e siècle, que ce droit, eh bien, est un droit qui a été construit pour un empire. Alors, ce qui va se passer avec la charia, c'est que ce droit construit in situ dans ces sociétés du désert est un droit qui va devenir très vite un droit pour un empire. Pour un empire. Et un droit qui va naviguer entre donc le registre éthique et religieux que j'ai évoqué tout à l'heure, transcendantal qui est celui de l'immuabilité, la vérité est immuable, et puis le registre juridique humain de la mutabilité. Un droit qui va avoir une histoire. Et la charia n'est pas une notion première du droit islamique. C'est une notion qui va émerger progressivement comme un vecteur d'unification de ce droit et dans un monde musulman qui va se constituer sur des temporalités très courtes. Alors ça, très simplement, pour vous rappeler qu'il se constitue donc autour de dates clés, hein, qui sont celles, bien entendu, de la vie du prophète, et puis ensuite son décès en 632, et puis ensuite les premiers califes, l'empire omeyyade jusqu'en 750, et puis l'empire abbasside jusqu'en 1258. On est dans une structure d'empire en expansion territoriale très forte, et puis un basculement après 1258, même avant, mais un basculement qui fait que cet empire va se fragmenter, et retrouver une structure d'empire, eh bien, avec, bien entendu, les Ottomans à partir du XVIe siècle. Donc, nous avons une construction qui se fait très rapidement. Voyez cette petite carte sur la première expansion. On voit que la première expansion, elle se fait sur la péninsule arabique en quelques années. C'est une expansion extrêmement rapide. Et il faut toujours penser à cela pour la question de la gestion du droit. Comment est-ce qu'on fait avec une expansion, hein, une conquête de territoires extrêmement rapide pour construire un droit pour ces territoires, avec des choix tout à fait importants. Bon. Et ensuite, donc, cette expansion, elle continue, elle va donc jusque toute la rive sud de la Méditerranée, l'Est remonte jusqu'à Cordoue, et puis l'expansion aussi vers l'Orient. C'est une expansion considérable, très rapide, et qui pose des problèmes donc de gestion juridique. Comment faire un droit pour un empire conquis si rapidement? Eh bien, on va le faire, donc on va construire ce droit autour d'un certain nombre de sources juridiques que l'on considérera pas tout de suite, parce qu'on ne nommera pas la charia en tant que telle immédiatement, comme les sources de la charia. Ce sont des sources d'abord scripturaires, le Coran et les hadiths, des traditions du prophète, et puis deux autres sources qui sont qui ont des statuts hiérarchisés. Elles ont toujours des statuts hiérarchisés, mais là aussi la hiérarchisation est un des problèmes. La coutume, orf, qui est contestée comme source directe de la charia et du droit islamique, qui donne lieu à des débats. Je ne veux pas rentrer dans ces débats parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. Et puis, une autre source très importante, qui est le consensus, ijma, mais qui a lui aussi des statuts différents, avec des grands débats doctrinaux sur le consensus entre qui. Est-ce que ce sont les compagnons du prophète, les savants d'islam, ou la communauté des croyants? Alors, à partir du 7e siècle, il faut bien créer un droit. Et la création de ce droit, elle va passer par la constitution du corpus des textes sacrés autour du Coran et des hadiths. Alors, le Coran, vous savez, bon, révélation, récitation, il est divisé en 114 chapitres, en sourates, et en 6200 versets à peu près, ça varie selon les versions, mais à peu près 6200 versets, et donc il se présente sous la forme suivante, avec des sourates et puis des subdivisions en versets de chacune des sourates. Là, vous voyez donc le chapelet pour la prière qui accompagne le Coran. Donc c'est dans ce texte que on est censé trouver les fondements du droit islamique. Mais le problème, c'est que dans le Coran, vous trouvez fort peu de dispositions, ou de sourates, ou de versets, qui ont une véritable teneur juridique. Le Coran, c'est aussi la récitation de tout le passé, hein, de la révélation. Hein. Donc ces dispositions à caractère juridique sont peu nombreuses. On considère qu'il y a à peu près 500 versets légiférants sur les 6200. Vous voyez, ça, c'est peu. Hein. D'autre part, ils sont dispersés entre les différentes sourates. Vous en avez un certain nombre dans la sourate de la vache, qui est la deuxième, qui est la plus importante en taille. Hein. Vous en avez aussi un certain nombre dans la sourate de la femme, hein, qui est aussi avec un certain nombre de dispositions qui ont trait, notamment, comme son nom l'indique, aux questions matrimoniales. Autre élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la notion même de charia est une notion quasi absente du Coran. Le mot est utilisé 3 fois. Et 2 fois de manière substantivée, d'ailleurs. Ce qui marque bien que le Coran lui-même ne met pas en avant la charia en tant que concept mobilisateur. Un concept important, mais en tant que concept mobilisateur du droit, notamment. Alors, il n'en demeure pas moins que dans le Coran, vous avez un certain nombre de règles à caractère social, économique, sur la famille, les mœurs, le commerce, etc. Et sur l'organisation politique, quasiment pas. Sur le califat, son organisation, il y a simplement la règle de l'obéissance au pouvoir politique, mais il n'y a quasiment pas de droit constitutionnel musulman dans le Coran. Alors, il y a bien sûr un certain nombre de règles de droit pénal, ce sont celles qui font le plus parler aujourd'hui, règles de droit pénal qu'on appelle les houdoud, had veut dire la limite en arabe, les houdoud, qui sont des règles donc qui effectivement prévoit la sanction d'un certain nombre de ce qu'on appellerait de crimes et de délits, hein, dans le droit, catégorie du droit contemporain, et des sanctions, comme vous le voyez ici, hein, qui peuvent être donc des sanctions sous forme de coups de fouet, le crime d'adultère, hein, la fausse dénonciation de l'adultère. Comme l'adultère est un crime très grave, il est très grave de dénoncer l'adultère donc de manière indue. Le vol, trancher les mains du voleur et de la voleuse, hein, et puis la guerre contre Dieu et son prophète, hein, l'exercice de la violence sur terre, ils seront tués ou crucifiés, ou bien leur main droite et leur pied gauche seront coupés, ou bien ils seront expulsés du pays. Vous voyez, là aussi un agencement de sanctions qui correspond peu aux logiques du droit contemporain, mais c'est important d'ailleurs parce que vous savez qu'il y a dans un certain nombre de pays du monde musulman aujourd'hui des débats sur la peine de mort, comme en Tunisie et au Maroc, des débats très, très violents. Et là où ça bute, c'est qu'effectivement, dans le Coran, eh bien, il est explicitement prévu que hein, les gens seront tués s'ils font donc un certain nombre de choses. Alors, il y a d'autres houdouds qui vont venir compléter ce droit islamique, mais ce n'est pas dans le Coran qu'on va les trouver, hein, ce sont dans les fameux hadiths. Alors, les hadiths, donc, ils sont nombreux. Hein, donc, qu'est-ce que c'est les hadiths ? Ce sont des écrits qui rapportent les comportements du prophète, les comportements de ses compagnons, qui permettent d'inférer les comportements du prophète, et qui sont transmis dans une chaîne donc sûre de transmetteurs, c'est ce qu'on appelle l'isnad, qui garantissent leur authenticité. Et donc les hadiths viennent compléter le Coran, et plus que le compléter, parce que, comme on l'a vu, le Coran nous dit peu de choses sur ce qui doit être la norme de comportement du bon musulman et ce que doit être le droit islamique. Donc les hadiths sont essentiels. Le problème des hadiths, c'est qu'ils sont extraordinairement nombreux, et qu'ils sont, alors si vous lisez Ibn Khaldoun, hein, qui a un passage magnifique sur les hadiths, il nous dit, mais pour les juristes, c'est un casse-tête terrible que les hadiths. D'ailleurs, selon les écoles, sur lesquelles je vais revenir tout de suite, les écoles juridiques, on voit que telle école en mobilise très très peu, hein, les malékites en mobilisent peu, les hanafites encore moins, et par contre les hanbalites plus, mais selon l'école donc juridique, le nombre de hadiths est donc mobilisé et très variable. Il nous parle de plus de 750 000 hadiths disponibles. Vous voyez, donc, pour le coup, quand quelqu'un a envie de justifier quelque chose à partir du droit islamique, il va toujours trouver un hadith quelque part, hein, qui lui permettra de justifier cela. Après, le débat se portera sur le hadith lui-même. Hein. Est-ce qu'il est dans une chaîne de transmission sûre? Et est-ce qu'il est lui-même d'une interprétation certaine? Parce que ça, c'est l'autre critère qui permet de distinguer un bon hadith d'un mauvais hadith. Alors ça, ce sont des débats considérables à l'intérieur du droit musulman. Et on voit que ces débats considérables permettent d'abord des dynamiques de ce droit en fonction des hadiths qu'on va mobiliser et la manière de les interpréter. Alors ces hadiths ont donné lieu relativement tardivement, hein, 2e, 3e siècle, à des recueils. C'est le plus célèbre, c'est le Sahih de Bukhari, qui est le plus célèbre des recueils de hadith, et qui en comporte plusieurs milliers, si je me souviens bien. Donc vous voyez, une source du droit très abondante et très difficile à exploiter. Alors, pour vous expliquer ce qu'est un hadith de manière concrète, un exemple de hadith, par exemple. Vous savez que il y a une règle de droit islamique qui est que la femme doit avoir un tuteur pour se marier, même si elle est majeure. Et donc, vous voyez que dans ce hadith, donc qui indique l'obligation d'avoir un tuteur, d'avoir un wali pour se marier, il est indiqué que l'origine, c'est-à-dire, c'est d'après Aïcha. Donc là, Aïcha l'a bien aimé. Le prophète a dit ceci. Donc vous voyez, le hadith, c'est toujours quelque chose qui est rapporté. Un dit du prophète ou un comportement du prophète qui est rapporté. Et donc, pour des règles juridiques extrêmement importantes, vous voyez, c'est non pas sur le Coran, mais sur les hadiths qu'on va donc s'appuyer. Et la question... c'est-à-dire qu'il connaît bien ces sujets, la question de la tutelle matrimoniale est une question très importante, hein, en droit islamique. La charia, donc, Coran plus hadith, pour qu'elle se mette en mouvement à travers un droit, pour que ce droit soit conçu et appliqué, il faut bien qu'il y ait des acteurs. Alors, vous avez des acteurs, je dirais des acteurs théologiens, qui sont les acteurs religieux, hein, ce qu'on appelle les oulémas, ceux qui ont le halem, qui ont la science religieuse, qui vont jouer un rôle dans la construction de la charia en tant qu'instrument juridique. Mais vous avez aussi des acteurs spécialisés, hein, des acteurs spécialisés qui sont les acteurs juridiques traditionnels, les fuqaras, qui sont les, c'est plus rien, le faqih, qui sont donc les détenteurs de la science du fiqh. Cette science, donc cette science juridique de la charia, qui sont donc des gens qui vont recevoir une formation spécifique, hein, dans les grandes institutions de théologie islamique et qui vont ensuite pouvoir occuper des fonctions juridiques qui peuvent être des fonctions de mufti. Alors le mufti peut être une fonction officielle ou une fonction officieuse. De mufti, c'est-à-dire des gens qui vont délivrer des fatwas, donc la fameuse fatwa qui est l'avis juridique, dont on parle beaucoup aujourd'hui aussi parce qu'elle est utilisée à des fins de guerre en quelque sorte, hein, qui sont donc des avis juridiques, et des cadis qui vont prononcer des jugements dans le cadre des tribunaux religieux, donc là, la justice musulmane traditionnelle, dans le cadre de tribunaux qui sont des tribunaux donc islamiques religieux. Et puis il y a les acteurs juridiques contemporains, mais je n'en parlerai pas tout de suite parce qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Là, aujourd'hui, la charia est mobilisée par des acteurs juridiques qui n'ont rien à voir avec les anciens, même si les anciens retrouvent certaines couleurs dans la scène contemporaine d'aujourd'hui. Alors, à partir de là, effectivement, la question des acteurs est très importante dans les débuts de l'islam parce que il y a une forte incertitude dans la construction d'une justice islamique, d'ailleurs sur le fait de savoir si le prophète avait nommé ou non des cadis, il en aurait nommé au moins un, et comment donc s'organise cette justice islamique. Par qui les cadis doivent-ils être nommés? Est-ce que c'est par le calife ou par les gouverneurs des régions? Et puis comment est-ce que ces cadis administrent la justice? Et il est évident que on a vu le Coran et les hadiths, c'est un corpus extrêmement vaste, incertain, qui fait que le cadi peut faire un petit peu ce qu'il veut, hein, tout en étant dans le cadre d'une justice islamique, c'est-à-dire en se référant à ce corpus, mais en l'utilisant à sa manière. Et donc, il peut le faire, je n'entrerai là aussi pas dans les détails, parce que sinon ce serait trop long, mais il peut le faire de deux manières, c'est-à-dire qu'il peut mobiliser les sources du droit que j'ai indiquées tout à l'heure, dans des combinatoires différentes, c'est-à-dire tel juge va, par exemple, user de la coutume, hein, tel autre refusera la coutume, tel juge utilisera le consensus d'une certaine manière, tel autre d'une autre manière. Et puis, il y a la mobilisation des sources du droit, qui donc est un élément qui va faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre, dans le jugement. Et puis, ici, vous avez les fameuses techniques de l'interprétation des textes. Les textes, ça s'interprète, hein, les juristes, c'est comme ça, c'est leur métier, on leur apprend à interpréter des textes, hein, le texte, et par l'interprétation, on fait donner une signification différente au texte. Bon, alors, il y a quatre grandes techniques d'interprétation des textes, qui sont l'interprétation littérale, l'interprétation par analogie, et puis la technique d'interprétation réaliste, que connaissent bien les juges américains, par exemple, et puis l'interprétation dite généalogique sur l'intention de l'auteur de texte. Mais l'intention de l'auteur du texte est un peu difficile, hein, comme l'auteur du texte, c'est Dieu, donc on rentre tout de suite dans des choses qui sont un peu dangereuses, hein, pour les juristes. Alors, donc, on est dans une situation, avec cet empire là qui se développe à tout à l'heure, de risque d'anarchie judiciaire, c'est-à-dire que chacun des juges, dans son côté, va se construire une petite shakshuka juridique, et le besoin de sécurité juridique qu'a tout citoyen de cet empire musulman, eh bien, il risque de passer donc à la trappe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça se mette en ordre? D'abord, la première chose, c'est cette mise en ordre, elle a été faite à travers ce qu'on a appelé les écoles juridiques, les madhab. Et ces écoles juridiques, elles sont au nombre de quatre, ce sont des choses qui sont assez bien connues aujourd'hui. L'école Hanafite, qui est celle qui va devenir l'école officielle du monde ottoman. L'école Malikite, qui va devenir dominante au Maghreb. L'école Hanbalite, qui va être implantée fortement en Arabie Saoudite, qu'on considère comme étant la plus traditionniste. Et puis l'école Chaféite, qui a connu son origine en Irak, mais qui a connu des développements en Égypte, notamment, et dans un certain nombre d'autres pays, dans le monde ottoman également, importante même au centre du monde ottoman, dans la capitale. Alors, ces écoles ont permis de stabiliser les techniques juridiques dans leur usage par les juges, avec ce qu'on appelait des recueils de fiqh, c'est-à-dire chaque école avait des recueils de fiqh qui permettaient aux juges de juger conformément donc aux orientations de l'école. Donc fin de l'anarchie. Mais fin de l'anarchie pour l'organisation d'un pluralisme juridique. C'est-à-dire qu'à partir de là, chacune des écoles avait ses juges, ses juridictions, et les plaignants allaient devant les juges des écoles en sachant que les écoles, sur le fond, divergeaient sur des choses très importantes, tant en matière de procédure qu'en matière de fond du droit. Donc ce qui se passe, c'est que dans ce moment 9e, 10e siècle, se met en place un pluralisme juridique ordonné. Donc loin de l'idée que la charia devrait délivrer un droit unitaire, tel que nous on le pense dans nos États-nations, un droit unitaire, vérité révélée, droit unitaire. Non, pas un droit unitaire, hein, un pluralisme juridique, qui marquait d'ailleurs une forme de pragmatisme. Hein. Un grand empire à gérer, un pluralisme juridique qui permet de restituer des différences entre les régions de l'empire. Et puis vient la suite, c'est-à-dire du 9e au 14e siècle, où la charia fait son entrée dans la scène en tant que vecteur d'unification du droit. La charia, à travers, je dirais, quatre efforts de la théorie et de la doctrine, que je restitue très rapidement ici. Le premier effort, c'est la théorie des usul al-fiqh, des principes du fiqh, qui repose donc sur une méthode commune d'usage des sources du droit. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord, de manière générale, sur la manière d'utiliser le Coran, la Sunna, l'Ijma et le Qiyas, qui est le raisonnement par analogie, que l'on considère dans la doctrine comme une source du droit. Nous, juristes contemporains, on dit que le raisonnement par analogie n'est pas une source du droit, c'est une méthode juridique d'utilisation des sources. Hein, bon. Et ça, c'est donc Chafeï, le fondateur d'une des écoles, qui va donc imposer ceci, sans d'ailleurs réussir à mettre fin au pluralisme juridique. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un élément d'harmonisation, mais le pluralisme juridique, lui, il va continuer et avec les différentes écoles. Deuxième moment important, et ce sont des moments qui sont importants parce qu'aujourd'hui on va réutiliser, et Nathalie va nous le dire, on va réutiliser ces notions, ces concepts dans les débats contemporains sur la charia. Deuxième moment important, c'est l'apparition de la doctrine des règles de la charia, Harkam al-Sharia, qui établit une échelle de licéité des actes humains entre ceux qui sont obligatoires, ceux qui sont recommandés, ceux qui sont permis, ceux qui sont interdits et ceux qui sont répréhensibles. Et ceci est important pour la qualification juridique des faits pour les juges. Troisième élément, c'est la notion très importante, alors là pour le coup, pour nos questions constitutionnelles, d'objectif ou de but de la charia, le makassid al-charia. Alors, c'est très important parce que l'idée, c'est que la charia est une organisation du droit autour de grandes finalités. Finalités que sont la religion, la personne, la raison, la famille, les biens. C'est Razali, avec un autre auteur, qui est le premier à développer cette thèse. Et ce qui fait que la charia, c'est du droit matériel, du droit concret, des normes, des règles, mais aussi des objectifs. Et ça, c'est très très important pour la suite. Enfin, dernière notion extrêmement importante, c'est la doctrine de la législation islamique. Cette doctrine qu'on appelle Siyasa Sharia, cette doctrine de la législation islamique va permettre une forme, un début de sécularisation du droit, c'est-à-dire va permettre au pouvoir des princes d'exister en termes de pouvoir normatif dans le cadre d'un état religieux. C'est-à-dire que nous allons avoir des gouvernants qui vont pouvoir exercer la fonction législative de manière légitime au regard de la religion, dès lors que cette fonction législative sera considérée comme exercée de manière conforme aux principes de la religion. Alors, ce sont deux grandes figures de la pensée islamique, que sont Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim al-Jawziyyah, le second étant le disciple du premier, qui vont développer au XIVe siècle cette doctrine. Et c'est un élément très important. Alors, ces auteurs sont mobilisés par les fondamentalistes, par les salafistes, mais ce sont des auteurs dont les apports sont ambivalents. par rapport à ces questions. Je ne vais pas développer plus longtemps sur ce point. Et je vais finir sur donc dans cette histoire accélérée, rapide de ce qu'est la charia, sur les transformations contemporaines du droit islamique. Alors, deux moments, la fin du 19e et le début du 20e siècle. Alors, c'est un moment extrêmement important, c'est le basculement vers le modèle de l'État-nation dans le monde entier, et un basculement qui a été naturellement favorisé par la colonisation. Les empires coloniaux, les puissances impériales ont été confrontées très directement à la gestion de leurs empires, comme d'ailleurs les musulmans au début de la création de leur empire. Et ils ont dû traiter la question des droits en vigueur, des droits positifs en vigueur dans les régions. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'ils savaient faire, hein, c'est-à-dire faire du droit codifié, c'est-à-dire du droit de l'État-nation. Donc, la France et la Grande-Bretagne, et aussi l'Indonésie, mais peut-être avec des options un peu différentes, ont mis en place des stratégies de codification du droit musulman. Il ne s'agissait pas de le supprimer. Supprimer le droit de musulman, c'était supprimer l'altérité des populations qui étaient colonisées, ce qui posait des problèmes. Donc, ce qu'ils ont fait, ce droit musulman, ils l'ont codifié et ils l'ont fait mettre en œuvre par des tribunaux modernes, hein, par des magistrats, hein, de l'ordre judiciaire. Et puis, parce qu'il y avait la menace de la colonisation, vous avez aussi une forme de réponse de l'Empire ottoman et des États musulmans qui commençaient à s'autonomiser ou qui s'autonomisaient depuis un certain temps de l'Empire ottoman, comme l'Égypte ou la Tunisie, des réponses qui ont consisté à elles-mêmes, donc pour ces anciennes puissances donc du monde musulman, elles-mêmes mettre en œuvre des processus de codification et de réforme en vue de la modernisation du droit. Ceci bouleversait totalement l'univers juridique dans lequel se trouvait cette région du monde. Avant, vous aviez un droit qui était fortement décentralisé, un droit qui n'était pas codifié, un droit des juges et des juristes, un droit de la doctrine et de la jurisprudence, va à la fin du 19e siècle, de concert à la fois par la colonisation et par le mouvement de la réforme, vous allez avoir donc un droit qui va devenir un droit centralisé de l'État. Et c'est là que la charia va réapparaître. Elle va réapparaître d'une manière très étonnante parce que, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, parce que la charia va être conçue comme un instrument de modernisation du droit. Et non pas, aujourd'hui, quand on nous parle de charia, on l'a tout de suite en tête, ce qu'on a vu tout à l'heure, ah là là, c'est truc complètement archaïque. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la charia, c'est un instrument de modernisation du droit. Pourquoi? Parce que la charia est vue par les réformistes musulmans, par ceux qui prônent la renaissance du monde islamique à travers la Nahada. Hein, la charia est vue comme étant un corpus de normes ou un corpus de principes restreint. À partir du Coran, à partir d'un nombre limité de hadiths, ou même pas de hadiths du tout, limité de hadiths qui ont été certains et à l'interprétation certaine. Donc, ce corpus identifié comme charia doit devenir la source de la législation. Mais à partir du moment où ce corpus devient la source de la législation, toute la jurisprudence islamique traditionnelle devient non pertinente, non valide sur le plan juridique. Ce qui fait que le fiqh, hein, toute cette œuvre doctrinale qui a commencé donc dès le 7e siècle et jusqu'à la fin du 10e siècle, le fiqh est mis dans les armoires, hein, dans les armoires de l'histoire du monde musulman. Fin du fiqh. Bon. Et à partir de là, donc vous voyez bien que la charia, qui a été restreinte, je dirais, au strict minimum par les grandes figures du réformisme musulman comme Mohamed Hamdou ou Rachid Riva, que cette charia laisse la place à un législateur moderne pour faire beaucoup de choses. Il est important pour lui de s'abriter derrière la charia, la référence au principe de la charia, pour donner une légitimité à son action, une validité dans le cadre constitutionnel à ces actes, mais au bout du compte, le législateur se trouve dans une situation qui ouvre un champ normatif qui va lui permettre de moderniser l'État. C'est ce qu'espèrent ces dirigeants musulmans de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Voilà comment les choses se sont passées. Ensuite, se sont créés des États indépendants, avec des constitutions, et donc avec des constitutions qui font référence ou pas référence à la charia, grand débat entre le Maghreb et le Mashrek. Et ça, ce sont des questions que va traiter Nathalie, à qui je cède la parole.
Bonsoir. Donc moi, je vais rebondir là où s'est arrêté Jean-Philippe Bras pour voir donc à l'époque contemporaine qu'est devenue cette relation entre charia, droit et politique. Et comme on va le voir, la charia continue de se situer aux confins du droit et du politique, ce qui conduit souvent à fausser la perception qu'on a de la charia, ici en Occident, mais parfois aussi dans les pays musulmans. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de passer rapidement en revue les principaux domaines du droit, ou dans les pays du monde musulman, mais surtout du monde arabe, puisque je travaille surtout sur le monde arabe, on continue de faire référence à la charia, et tout en essayant de déterminer la place qu'occupent respectivement le droit et la politique, et le politique dans cette relation. Donc le premier domaine où l'on rencontre encore la référence à la charia ou à l'islam dans les droits contemporains des pays arabes, ce sont les constitutions, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe. Donc à l'heure actuelle, tous les pays du monde musulman ont adopté une constitution qu'ils ont appelée constitution ou loi fondamentale ou statut fondamental. Et même l'Arabie saoudite a adopté une loi fondamentale en 1992 et Oman est le dernier État à en avoir adopté une. Après les printemps arabes, un mouvement de réécriture des textes constitutionnels a traversé le monde arabe. Des nouvelles constitutions ont été adoptées au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Au Yémen et en Libye, des constitutions sont toujours en cours d'élaboration, mais la situation sur place fait que le processus a été plus ou moins suspendu. Et la constitution jordanienne avait été amendée également. Et si l'on s'intéresse maintenant aux références à la charia et à l'islam dans ces textes constitutionnels, donc on constate que toutes ces constitutions proclament l'islam religion de l'État. Même la constitution tunisienne de 1959 affirmait que la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la République. Et la nouvelle constitution tunisienne qui a été adoptée en janvier 2014 reprend exactement la même formulation. Donc, le seul pays du monde arabe qui ne faisait pas de l'islam la religion de l'État, c'est la Syrie. Mais il y a quand même des références à la religion dans la constitution syrienne. Le fiqh est la source principale de la législation et le président doit être musulman. Et puis le Liban aussi, mais bon, le Liban, c'est un cas spécial puisque c'est un État multicommunautaire. Certaines constitutions disent également que l'État est islamique. Donc c'est le cas de l'Arabie saoudite, du Bahreïn. En dehors du monde arabe, on a un certain nombre de constitutions également qui proclament l'islamité de l'État. Et donc j'ai déjà parlé de la Syrie et du Liban. En pratique, si on regarde comment sont organisés les pouvoirs politiques dans ces pays, on se rend compte qu'à part les pays du Golfe et l'Arabie saoudite, qui sont des cas encore un peu particuliers, la référence à la religion, à l'islam religion de l'État et même parfois à l'islamicité de l'État est différente d'un État à l'autre, bien sûr. Mais dans la plupart des cas, ça n'a pas eu concrètement l'effet de mettre en place des États théocratiques qui seraient dirigés entièrement par des institutions religieuses. Puisque dans la plupart de ces pays, notamment au Maghreb, au Proche-Orient, on a des systèmes politiques qui fonctionnent sur le modèle occidental d'une séparation des pouvoirs avec un président, un parlement, un pouvoir judiciaire et une séparation plus ou moins poussée des domaines religieux et étatiques. Donc il est rare que l'affirmation dans la constitution du caractère islamique de l'État se soit traduite par un régime théocratique et par l'association à l'exercice du pouvoir d'institutions religieuses ou de spécialistes du droit musulman. Dans certains pays, on rencontre effectivement des institutions religieuses qui participent de façon plus ou moins intense à l'exercice du pouvoir, mais souvent elles n'ont que des pouvoirs consultatifs, comme le Conseil des oulémas au Maroc, l'Université El-Azhar en Égypte, Moufti de la République en Tunisie, Il n'y a guère que l'Arabie saoudite qui continue à affirmer que le roi tire son pouvoir du Coran et de la Sunna, qui s'impose à lui, et où existe un comité de grands oulémas qui participe directement à l'exercice du pouvoir, et puis en Iran, c'est hors monde arabe, où là on a vraiment un système de gouvernement par des hommes de religion avec le guide de la révolution. Mais dans la plupart des autres pays du monde arabe, on a un système d'organisation des pouvoirs qui est calqué sur les systèmes modernes, présidentiels, parlementaires, semi-présidentiels, semi-parlementaires, enfin, avec séparation des pouvoirs et rôle très limité des institutions religieuses. Autre référence à la charia que l'on trouve dans certaines constitutions. Donc certaines constitutions affirment que la charia est là ou une source principale de la législation. Donc vous avez par exemple des États du Golfe, Koweït, Émirats arabes unis, où elle est une source principale de la législation. Vous avez l'Arabie saoudite, où là, carrément, l'État saoudien a pour constitution les livres de Dieu et les traditions de son prophète. On a le cas plus particulier de l'Égypte, où la constitution, donc la dernière constitution qui a été adoptée l'an dernier, affirme que les principes de la loi islamique sont la source principale de la législation. Donc c'est un article qui figurait déjà dans la constitution précédente, celle des frères musulmans, mais également celle de 1971 de Sadat, qui avait été amendé en 1980, l'Égypte de Sissi qui a chassé les frères musulmans, qui affirmait vouloir réinstaurer un État où il y avait une séparation totale du religieux et du politique, a quand même conservé cet article 2, qui fait donc de la charia la source principale de la législation. Donc il y a eu un consensus au sein du comité qui a élaboré la Constitution de 2014 pour ne pas toucher à cet article 2. Donc, est-ce que c'est par réalisme, par opportunisme? Est-ce que c'est pour contrer les partis islamistes, et notamment les frères musulmans, qui auraient pu utiliser politiquement cette suppression de la référence à la charia dans la Constitution pour montrer que le nouveau régime était hostile non seulement aux frères musulmans, mais également et surtout à l'islam? Tout un ensemble de raisons ont fait que cet article 2 a été conservé dans la nouvelle Constitution. C'est peut-être aussi que l'Égypte est une société quand même conservatrice, une pieuse, et que la religion fonctionne comme un marqueur identitaire, et que cette appartenance religieuse à l'islam de la majorité de la population égyptienne fait partie de l'identité de cette population. Et les chrétiens ont également un sentiment religieux très fort d'appartenance au christianisme. Et ce n'est pas parce qu'on a forcément cet article 2 dans la Constitution que il y a une volonté de la population égyptienne de réislamiser le droit égyptien. Ça peut être davantage une demande de justice sociale, de retour à l'ordre, à la stabilité, à la sécurité. Et après une période qui avait été marquée par la fraude, la corruption et l'autoritarisme sous Moubarak. Et j'en veux juste pour preuve une manifestation des frères musulmans et des salafistes qui avait eu lieu en novembre 2012 au moment de l'élaboration de l'ancienne constitution, celle des frères musulmans. Donc il y avait une grande manifestation place Tahrir au Caire, et il y avait qui était noir de monde de barbus, et ces barbus avaient des pancartes en disant qu'ils réclamaient l'application de la charia parce que la charia mettrait fin au chômage, elle mettrait fin au trafic de drogue et elle mettrait fin à la corruption. Donc ils ne demandaient pas l'application des châtiments corporels, mais ils demandaient l'application des valeurs morales qui sont celles de la charia. Donc les autres constitutions du monde arabe ne font pas référence à la charia, en tout cas celles du Maghreb ne le font pas, ni Algérie, ni Maroc, ni Tunisie. Vous savez que pour la Tunisie, il y a eu tout un débat lors de l'élaboration de la Constitution, mais finalement, la Constitution ne fait pas référence à la charia. Comme on le verra tout à l'heure, quand on verra l'exemple de l'Égypte et d'autres pays, on regardera à quels endroits la charia existe encore dans le droit, concrètement. Là encore, c'est pas parce que la charia est la source principale de la législation que tout le droit est forcément tiré de la charia. Même pour l'Égypte, malgré cet article 2 qui fait de la charia la source principale de la législation, on verra tout à l'heure que, en fait, seul le droit de la famille continue à puiser ses sources dans la charia, que toutes les autres branches du droit ont été sécularisées depuis longtemps, même le droit pénal. et que le fait d'avoir cet article 2 n'a pas eu de conséquences, en tout cas jusqu'à présent, sur le droit égyptien. Il n'y a que le droit de la famille qui continue à puiser ses sources. Et inversement, le fait que la Constitution ne fasse pas de la charia, ne fasse pas référence à la charia, comme en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, n'empêche pas le droit de la famille de tirer ses sources de la charia. Donc en fait, le droit égyptien est très proche actuellement du droit tunisien, marocain et algérien, peut-être pas dans le contenu des normes du droit de la famille, il y a des différences assez importantes, mais dans le fait que tous ces pays, en tout cas pour le droit de la famille, affirment appliquer la charia dans le droit de la famille. Même la Tunisie, quand Bourguiba a adopté le code de la famille en 1956, je reparlerai un petit peu tout à l'heure, il a dit qu'il appliquait la charia. Seulement, il l'a réinterprété. Et donc, cette référence, concrètement, jusqu'à présent, cette référence à la charia dans la Constitution n'a pas entraîné de différence entre les pays qui y font référence ou qui n'y font pas référence. Donc, pour la Constitution, en conclusion, comme le disait tout à l'heure également Jean-Philippe, la référence à la charia ou à l'islam dans les constitutions est surtout une valeur symbolique, mais jusqu'à présent qui ne s'est pas traduite sur le plan politique ni juridique. Donc pourquoi le mettre dans la constitution? Ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour le régime, c'est un moyen de se réapproprier le référent religieux pour renforcer sa légitimité. Et pendant longtemps, ça a été aussi un moyen pour les gouvernements de contrebalancer la montée de l'opposition islamiste en promouvant un islam officiel. Donc ça coupait un peu l'herbe sous le pied de l'opposition islamiste, puisqu'ils montraient qu'eux étaient aussi islamistes ou aussi musulmans qu'eux, puisque cette référence figurait dans leur constitution. Et puis pour la société, comme je le disais également tout à l'heure, cette référence à l'islam est surtout un marqueur d'identité, davantage qu'une volonté d'appliquer vraiment le droit musulman. On regarde maintenant, on descend un peu d'un niveau, donc là on est au niveau de la Constitution, regardons maintenant au niveau des lois, ce qu'il en est. Dans quel type de branche du droit est-ce qu'on trouve encore des références à la charia dans les législations contemporaines du monde arabe? Là encore, je passerai rapidement, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, il y a eu un mouvement de sécularisation du droit à partir du 19e siècle, dans la plupart des pays du monde arabe. Donc le droit a été sécularisé, c'est-à-dire qu'il s'est détaché de la religion. Donc tout ce qui a été décrit tout à l'heure, ce n'est plus le cas. Il y a eu une rupture à partir du 19e siècle. Et les droits des pays arabes ont été refaçonnés sur le modèle des droits occidentaux et particulièrement des codes français. Donc ça a commencé dans l'Empire ottoman au 19e siècle avec les réformes Tanzimat. Puis ça s'est étendu et généralisé à la fin du 19e siècle. Et à l'heure actuelle, seule la péninsule arabique est demeurée globalement à l'abri de l'influence des lois européennes, même si en Arabie saoudite, on a quand même des textes, des ordonnances royales, des nizams qui sont rédigés par le roi et qui réglementent certains aspects de la vie, notamment toute la vie économique du pays. Donc, comme c'était rappelé tout à l'heure, cette sécularisation a souvent été imposée par l'occupant, notamment au Maghreb, lors de la colonisation. Mais parfois, elle a émané d'un choix des dirigeants de certains pays eux-mêmes, qui cherchaient, dans un souci d'efficacité, un souci de progrès, un souci de centraliser également le pouvoir entre les mains de l'État. Donc, ils ont décidé d'importer des codes, c'était par exemple le cas en Égypte à la fin du 19e, pour reprendre des pouvoirs aux hommes de religion et centraliser tout ce qui était l'élaboration des textes aux mains de l'État. Il y a eu bien sûr des résistances de la part des docteurs de la loi religieuse, mais leur opposition n'a pas été assez forte pour constituer un obstacle important, et ces codes ont peu à peu été assimilés avec succès dans les différentes régions de l'islam. Les domaines qu'il a été plus difficile de réformer sont ceux où existaient dans le Coran et dans les hadiths des versets importants ou des hadiths nombreux. C'est le cas du droit pénal donc, qui a été évoqué tout à l'heure. Donc le droit pénal islamique, donc je ne reviens pas sur ce que Jean-Philippe vous a exposé, donc sur ces fameux châtiments corporels qui donnent une image tellement négative de la charia réductrice, puisque à l'heure actuelle, on parle de charia, on ne voit que ça, que les châtiments corporels. Alors qu'à l'heure actuelle, la plupart des pays du monde arabe ont totalement abandonné les prescriptions du droit pénal islamique et les ont remplacées par des législations modernes. C'est le cas de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, du Liban, de la Syrie, enfin bon, la Syrie avant la guerre civile, etc., qui ont totalement, depuis longtemps, abandonné totalement le droit pénal islamique et importé le code pénal français. Donc ils n'appliquent plus du tout les châtiments corporels qui étaient prévus par le droit pénal classique, notamment en matière d'adultère, de vol, de meurtre. On applique d'autres peines, mais pas les châtiments corporels. Il y a bien sûr des exceptions à cet abandon du droit pénal islamique, puisque certains pays continuent à appliquer le droit pénal islamique, comme le Yémen, le Qatar, donc les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Certains pays qui avaient abandonné le droit pénal islamique y sont revenus, le Soudan, le Pakistan, l'Iran, le Nigeria, le Mali. Si on s'intéresse de plus près de nous à ce qui s'est passé en Égypte entre 2012 et 2013, puisque les frères musulmans ont dirigé l'Égypte de 2012 à 2013, est-ce qu'ils ont réislamisé le droit pénal égyptien qui a été totalement sécularisé depuis la fin du 19e ? Non, ils n'ont pas réinstauré les châtiments corporels et ils n'ont jamais dit que c'était à l'ordre du jour. Ça ne figurait pas dans leur programme et ça ne figurait pas dans leur discours. Ils n'avaient pas du tout une politique claire à ce niveau-là. C'était très difficile de savoir ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient réislamiser, mais concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ce n'était pas clair. Mais enfin, ce qu'on peut déduire de différents discours de plusieurs dirigeants, c'est qu'il n'était pas question de réinstaurer les châtiments corporels dans l'immédiat tant que la moitié de la population vivrait dans la pauvreté. Pour eux, les châtiments corporels, le droit pénal islamique, ne peut s'appliquer que dans une société où les principes de l'islam sont véritablement respectés. Donc il faut déjà que la société change, que l'islam soit respecté, que l'on soit dans une communauté de croyants pieux, où règne la justice, l'équité, où tous les besoins élémentaires de la population sont assurés. Et alors là, on pourra appliquer le droit pénal islamique. Mais en tout cas, ce n'était pas le cas de l'Égypte qu'ils ont trouvé en 2012, et on ne saura jamais s'ils auraient appliqué ou non les droits, les houdouds, ou si, combien de temps ça aurait pris pour réislamiser la société égyptienne. Mais en tout cas, ils posaient des conditions assez, assez strictes pour l'application de ces châtiments. Donc si l'on regarde donc pour le droit pénal islamique, donc peu de pays continuent à l'appliquer. Certains l'ont réinstitué dans leur code pénal. Par exemple, la Libye, sous Kadhafi, dans les années 70, avait réislamisé le droit pénal. Mais en pratique, ça n'était pas appliqué. C'était dans le code pénal, mais les juges n'appliquaient pas ces dispositions. Ils préféraient, en cas de vol, condamner le voleur à la prison plutôt qu'à lui couper la main. Mais c'était quand même dans le code pénal. Alors pourquoi Kadhafi avait réislamisé le code pénal, mais ne souhaitait pas appliquer ces châtiments ? Là encore, c'était peut-être pour montrer l'islamicité du régime, son identité islamique, sa résistance aux pressions occidentales, puisque Kadhafi avait quand même des relations souvent assez tendues, donc par opposition à l'Occident. Donc c'était l'expression d'une affirmation culturelle et politique face à l'hégémonie occidentale. Et ça lui permettait aussi de se réapproprier le discours des islamistes. Mais donc, ces châtiments corporels, en tout cas dans le droit libyen, qui étaient dans le code pénal, n'ont pas été appliqués. Donc le deuxième domaine qui continue à puiser ses sources dans la charia, dans le droit contemporain des pays arabes, et là, pour le coup, c'est partout, c'est le droit de la famille, qui est la seule branche du droit où dans tous les pays du monde arabe, on affirme appliquer la charia, même si elle est appliquée de façon très très différente. Le code de la famille tunisienne est très différent du code algérien et encore plus différent du code de la famille égyptien et d'autres pays. Donc il y a des différences très très fortes entre tous ces codes de la famille, mais tous affirment appliquer la charia, puiser leurs sources dans la charia. Donc pourquoi le droit de la famille, pourquoi le droit de la famille est-il si difficile à détacher de la charia ? Déjà parce que il y a beaucoup de références au droit de la famille dans les sources du droit musulman, dans le Coran, dans le Hadith. C'est sur le droit de la famille qu'il y a le plus de normes dans ces sources religieuses. Et puis aussi parce que le droit de la famille est chargé d'une symbolique forte. La famille et la femme, parce que qui dit famille dit femme, et que la femme, la famille sont considérées comme le refuge d'une identité musulmane. Donc une grande partie de la population semble être attachée à l'idée que le droit de la famille exprime une identité islamique qui doit être protégée contre les excès de la modernité. Et l'élan vers une éventuelle libération des femmes à travers une réforme du droit de la famille est considéré par certaines tendances islamistes comme un signe d'aliénation et de reniement à l'islam. Donc le droit de la famille a échappé à la sécularisation, il n'a pas été sécularisé, les pays arabes n'ont pas importé le code français de la famille comme ils ont importé le code pénal, le code de commerce, le code civil, le code de procédure, etc. Ils n'ont pas importé le code de la famille. Mais s'il n'y a pas eu sécularisation, il y a quand même eu des modifications, des réformes qui ont été introduites dans le code de la famille. C'est que ce droit de la famille a été codifié, donc il a été mis par écrit. Et dès la fin du XIXe siècle, ça a commencé en Égypte avec la codification du droit hanafite de la famille. Et puis ça a continué en 1917 dans l'Empire ottoman avec la promulgation d'un code de la famille. Et puis après, ce mouvement de codification du droit de la famille s'est étendu et généralisé dans la plupart des pays du monde arabe. Et au moment des indépendances, presque tous les pays du monde arabe ont codifié le droit de la famille. Donc ils ont pris les normes qui existaient dans la charia et ils les ont mises sous forme de code. C'est totalement étranger au droit musulman, à la charia. Il n'existait pas de code. Donc il a fallu les faire rentrer ces normes de la charia dans ces catégories, ces classifications qui étaient des classifications et des catégories occidentales. Donc on les a fait rentrer dans ces codes pour les mettre par écrit. Et à l'heure actuelle, même le Bahreïn a un code de la famille depuis 2009, le Qatar depuis 2006, les Émirats depuis 2005, ils ont tous codifié leur code de la famille, et seule l'Arabie Saoudite résiste et n'a pas, toujours pas de code de la famille. Et cette codification du droit de la famille a permis au niveau technique aux législateurs d'exposer ces normes de façon systématique, de façon plus rationnelle. Au niveau politique, ça a permis à l'État, dans le cadre de la construction de l'État-nation, donc au moment des indépendances, d'affirmer son contrôle sur la société, parce qu'en codifiant le droit de la famille, il retirait une bonne partie des pouvoirs à l'élite religieuse, donc, et il s'affirmait comme le centre unique de décision et le seul habilité à dire le droit. Et puis, le processus de codification a également permis à de nombreux États, pas à tous, mais à de nombreux États, de réformer le code de la famille. Au moment de la codification, on en a profité pour introduire un certain nombre de modifications dans le droit de la famille. Donc, ça a été un instrument de réforme sociale également, cette codification. Et le plus souvent, pour protéger les plus faibles, c'est-à-dire la femme et les enfants. Donc, la codification a permis, dans la plupart des pays, d'atténuer un peu la rigueur de certaines règles de la charia. Et à l'heure actuelle, donc, dans le droit de la famille, la place de la charia est donc... pourtant, c'est là où on la trouve le plus dans les pays contemporains. Donc non seulement elle a été codifiée, mais en plus, elle ne s'applique plus qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire quand le juge doit résoudre un problème de droit de la famille, il doit appliquer le code. Il applique le code de la famille. Certes, c'est une codification de la charia, mais il y a quand même eu un certain nombre de réformes qui ont été introduites au moment de cette codification. Et c'est seulement s'il ne trouve rien dans le code qu'il peut revenir au principe de l'école qui est dominante dans ce pays, donc à la charia. Donc c'est seulement à titre subsidiaire que les principes de la charia peuvent maintenant s'appliquer dans ces pays. En priorité, c'est le code, et c'est seulement s'il n'y a rien dans le code que le juge peut aller rechercher dans le droit musulman classique. Et le juge doit appliquer la loi, le code, même s'il n'est pas d'accord avec le code. S'il estime que le code viole la charia, ne respecte pas la charia, il n'a pas le droit d'appliquer directement la charia, il doit appliquer le code au conflit qu'il doit résoudre. Une des conséquences de cette dimension très politique du droit de la famille dans les pays arabes, c'est qu'il est très difficile à réformer. Le droit de la famille est très difficile à réformer, puisqu'on a dit qu'il touchait à l'identité même musulmane, et que les réformes juridiques dans le domaine du droit de la famille nécessitent l'intervention d'un État fort. Elles sont souvent impopulaires, elles vont à l'encontre d'une opinion publique qui est traditionnellement conservatrice, et donc il faut l'intervention d'un État fort pour modifier le droit de la famille. Et les réformes vraiment importantes qu'a connues le monde arabe dans le domaine du droit de la famille ont donc été imposées par des régimes forts, parfois de façon autoritaire. Donc souvent, les réformes du code de la famille sont adoptées par décret présidentiel. Donc elles ne sont pas votées par un parlement, mais elles sont imposées par le chef de l'État. Donc ça a été le cas de Bourguiba, donc en 1956. Le code de la famille a été imposé de façon, par décret présidentiel. Ça a été le cas en 79 en Égypte. Il y a eu une loi Jihan qui avait été adoptée par Sadat par décret présidentiel. Au Maroc, en 2004, certes, le nouveau code de la famille n'a pas été adopté par le roi, mais il a été adopté par le Parlement après que le roi ait dit qu'il était favorable à l'adoption de cette loi. Et le dernier point que je voulais aborder, avant de repasser la parole à Jean-Philippe, si on a le temps, c'était que donc pour réformer le droit de la famille, ces États vont toujours s'attacher à rester dans le cadre du droit musulman. Donc c'est difficile de le réformer. Et en plus, pour le réformer, il faut que ce soit légitimé par ce qu'on appelle des processus de légitimation interne. Donc les gouvernements ou les États, quand ils réforment le droit de la famille, jamais ils disent on permet à la femme d'avoir les mêmes droits que l'homme parce que c'est conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Convention des Nations unies sur la protection des femmes, etc. Ils disent jamais. Les modes de légitimation sont toujours que c'est conforme à l'islam. Donc ils vont rechercher au sein de l'islam des éléments qui peuvent leur permettre de justifier les réformes qu'ils introduisent. Et donc un des modes de légitimation, c'est de se référer aux autres écoles. Tout à l'heure, Jean-Philippe a évoqué le fait qu'il y avait 4 écoles qui étaient considérées comme légitimes. Il y avait souvent des différences importantes d'une école à l'autre. Et ce qu'ont fait les législateurs au moment de la codification, c'est que s'ils voulaient abandonner une norme qui leur semblait un peu trop stricte, ils allaient voir dans les autres écoles s'il n'y avait pas une norme un peu plus souple qu'ils pouvaient importer. Donc c'est ce qu'a fait par exemple l'Égypte pour le divorce. L'Égypte appliquait l'école de droit hanafite qui ne reconnaît pas le divorce à l'initiative de la femme, sauf si le mari est impuissant. Donc l'Égypte a été voir au sein de l'école malikite, qui était beaucoup plus libérale à ce niveau-là. Et dans les années 20, quand l'Égypte a autorisé le divorce de la femme, c'est écrit clairement dans la loi au début qu'on décide d'aller voir, enfin d'importer des principes de l'école malikite parce que c'est conforme à l'intérêt de la femme. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Donc le législateur le fait en toute conscience de cause et il l'écrit dans ses textes. Ça a été la même chose pour la tutelle matrimoniale. Là, c'était dans l'autre sens. C'était en Algérie et au Maroc qui exigeaient la tutelle matrimoniale pour le mariage. Donc la fille avait besoin de l'accord du père, alors que l'école hanafite ne l'exigeait pas. Quand en 2004 et 2005, cette norme a été réformée dans les deux pays, c'est sur la base de l'école hanafite. Donc ils se sont dit, l'école hanafite ne l'exige pas, donc il n'y a pas de raison qu'on l'exige nous non plus. Donc ça, c'est un des moyens. Donc choix de normes au sein d'autres écoles sunnites. Mais vous voyez, on reste toujours dans le cadre du droit musulman. Un autre moyen, c'est de limiter les pouvoirs du juge. Donc par exemple, pour les mariages précoces, l'Égypte, dans les années 30, a voulu interdire les mariages précoces, mais comme c'est pas interdit par le droit musulman, elle n'a pas osé l'interdire. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a interdit au juge de connaître de litiges relatifs à des mariages précoces. Donc le mariage précoce n'est pas interdit, les mineurs peuvent se marier, mais ça a leurs risques et périls, parce que s'il y a un litige autour du mariage, le juge refusera d'en connaître. Et c'est la même chose pour les mariages non enregistrés, les mariages orfi, que connaît encore l'Égypte à l'heure actuelle. Le mariage orfi est un mariage qui n'est pas enregistré, qui n'est pas interdit, qui est légal, mais seulement les juges ont l'interdiction de connaître de tout litige qui pourrait surgir autour d'un mariage orfi. Donc ça crée bien sûr des problèmes. La femme ne peut pas divorcer, puisqu'elle, pour divorcer, elle doit aller devant le juge, et puisqu'elle ne peut pas se prévaloir d'un mariage orfi, elle ne peut pas divorcer. Il y a eu une petite atténuation à ce niveau-là en 2000, où le législateur a quand même autorisé la femme à divorcer, mais c'est la seule exception. Donc ça, c'est donc un moyen procédural, et qui est basé sur le fait qu'en droit musulman, le détenteur de l'autorité peut déterminer le champ de compétence du juge. Donc là encore, on reste dans le cadre du droit musulman. Et l'autre moyen qui a permis de réformer le droit de la famille, c'est l'ijtihad, le fameux ijtihad, donc la réinterprétation des sources classiques. Donc cette technique repose sur l'idée que, c'est un peu l'idée des réformateurs, que l'interprétation de la charia est conditionnée par les circonstances historiques dans lesquelles elle a été effectuée, et que les premiers interprètes de l'islam, donc ceux qui ont créé le fiqh, ont interprété les sources en fonction des circonstances qui existaient à leur époque, mais que maintenant que les circonstances ont changé, on doit pouvoir réinterpréter ses sources en fonction des circonstances actuelles. Et c'est ce qu'a fait la Tunisie pour Guéba en 1956, quand il a été interdit la polygamie et la répudiation. Il s'est basé sur une réinterprétation des versets coraniques. C'est ce qu'a fait aussi le roi du Maroc. J'avais juste reproduit le discours du Maroc, où on voit très bien qu'il pratique l'ijtihad pour la polygamie. Donc il réinterprète le verset coranique qui interdit la polygamie en disant que le Maroc n'a pas interdit la polygamie, mais il a mis des conditions assez strictes. Donc c'est un autre moyen de réformer le droit musulman de l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur la place de la charia dans le droit contemporain des pays arabes. Donc vous voyez qu'elle est quand même assez limitée, et que droit et politique sont étroitement imbriqués également lorsqu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer la charia.